Et le mardi, dans la deuxième partie de l'AIM, on vous propose le plateau des marottes, les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous, des idées de sortie dans le Finistère aussi. Aujourd'hui, au micro, elles sont trois. Il y a Jeanne Blanchard, Séverine Crène, Marine Chanourdi. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
J'adore, c'est beau, cette belle chorale. On va commencer par Jeanne avec un sujet... à la fois sombre, mais en même temps réjouissant. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on sait que le 25 novembre, c'est la journée de prévention des violences faites aux femmes. Mais en fait, bon, c'est un sujet évidemment qu'on pourrait traiter toute l'année, même tout le mois de novembre. Et puis là, il y a une deuxième approche. Ouais, voilà. Et ouais.
Toujours autour de la question du genre. Ouais, pour ma première marotte, j'arrive pas avec le sujet le plus fun, en effet. La semaine prochaine, mercredi 20 novembre, c'est la journée du souvenir transgenre. C'est une journée où on commémore et on honore les personnes transgenres et non-binaires qui sont décédées durant l'année en raison de leur identité de genre. Pour rappel, les personnes transgenres sont des personnes qui ne se reconnaissent pas ou pas exclusivement au genre assigné à la naissance. Ces personnes peuvent être des femmes, des hommes, des personnes non-binaires, des personnes genderflou comme le bédéiste Tamos ou genderfucker comme la chanteuse Le Talu. Sachez qu'il existe autant de manières de transitionner que de personnes trans. Certaines personnes trans font des transitions administratives en changeant leur état civil, d'autres des transitions physiques en prenant des hormones, en allant à la salle de sport ou en se maquillant. Il y a aussi les transitions sociales où les personnes demandent à leurs proches d'utiliser un nouveau pronom ou d'être genrées différemment. Mais quelles que soient les transitions mises en place, les personnes trans font toutes face à la transphobie de la société. Et cette transphobie se retrouve partout. À l'école, dans la famille, au travail, dans le domaine de la santé et du sport, dans les prisons, dans l'espace public, etc., etc. La transphobie prend des formes très diverses. Le rejet, les insultes, les agressions physiques, la sexualisation, l'invisibilisation, etc., etc. En France, il a fallu attendre 2016 pour que l'État arrête de contraindre les personnes trans à se faire stériliser pour pouvoir changer d'état civil. En France, il a fallu attendre 2021 pour que l'État interdise les thérapies de conversion sur les personnes trans. Et vu la constitution actuelle du gouvernement Barnier, ça ne nous rassure pas pour les avancées des droits et des conditions de vie des personnes trans dans l'avenir. J'ai voulu vous faire la liste de tous les ministres ou chargés de je ne sais quoi au gouvernement qui ont tenu des positions LGBT-phobes. Mais franchement, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop déprimant. J'ai quand même décidé de garder pour vous le meilleur d'entre tous, Bruno Retailleau. C'est le ministre de l'Intérieur qui a reçu l'attribution de lutter contre les LGBT-phobies. Quand on sait qu'il a lutté contre le mariage homosexuel, qu'il n'en a toujours pas honte et qu'il n'a pas changé d'avis, ou encore qu'il a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion, on pourrait penser à une blague, mais non. Au printemps dernier, il a même voté pour un projet de loi anti-trans. Alors ce projet... Je vous en parle un petit peu. Il est passé au Sénat au printemps. Depuis, il y a eu la dissolution de l'Assemblée. Alors, je ne sais pas trop où est rendu ce projet, mais à mon avis, il va réapparaître à un moment ou à un autre. Et avec cette nouvelle Assemblée où le RN n'a jamais été aussi nombreux, personnellement, j'ai super peur. Déjà, à l'origine de ce projet de loi, il y a un groupe d'enquête sénatoriale lancé par le parti Les Républicains. À l'intérieur de ce groupe d'enquête, on retrouve des « experts » entre gros guillemets, issus pour la majorité de collectifs transphobes, qui prônent notamment les thérapies de conversion. Alors pour rappel, les thérapies de conversion sont tout simplement des actes de torture à l'encontre des personnes LGBT. En plus d'avoir des « experts » transphobes, le travail d'enquête a été totalement biaisé, avec des propos déformés, des comptes rendus d'audition incomplets, et j'en passe de meilleurs. Ce groupe d'enquête est donc arrivé à la conclusion transphobe qu'il faut interdire les transitions médicales et sociales aux mineurs. Alors non, interdire les possibilités de transition aux enfants, cela ne va pas les protéger, ça va les tuer. C'est aussi simple et brutal que ça, si ce projet de loi passe, des enfants trans vont mourir. Et les collectifs transphobes ne veulent pas s'arrêter là, leur objectif est d'interdire les transitions de genre aux adultes. Face à ça, il est important de se renseigner. Beaucoup de bêtises sont racontées sur les transidentités et encore une fois, on laisse très peu de place aux personnes concernées pour en parler. Je vous conseille donc le dossier qu'a réalisé Mediapart sur le projet de loi anti-trans. Je vous conseille aussi les contenus de Morgane Noam, Loulou Parfois ou encore Lexi qui sont présentes sur les réseaux sociaux mais aussi dans vos librairies. Vous pouvez aussi vous rapprocher des collectifs ou des associations présentes localement. Je pense notamment au CTFS à Quimper ou à Bresse-la-Trans. Bresse-la-Trans organise d'ailleurs mercredi 20 novembre, à l'occasion de la journée du souvenir trans, un rassemblement commémoratif à 18h Place de la Liberté, à Brest. Il sera suivi par un repas convivial au Pôle Santé. À Quimper, le rendez-vous est donné à 18h30 à l'esplanade François Mitterrand, toujours mercredi 20 novembre. L'événement est organisé par le CTFS et s'inscrit dans un grand nombre d'événements de lutte contre les violences de genre sur tout le mois de novembre. Bon, j'avais prévenu au début que mon sujet n'était pas hyper joyeux, mais s'il me reste encore un peu de temps,
oui.
J'aimerais vous lire un extrait d'un texte écrit par l'humoriste Lou Trotignon. Quand on pense trans, on pense médical, on pense ablation des seins, des génitaux. Et bien que ce soit réel et en effet présent, ce n'est pas du tout ma définition du mot trans. Par ailleurs, la tristesse et la souffrance étaient mille fois plus présentes quand j'essayais d'être quelqu'un d'autre que moi. Dans tous mes textes, j'essaye de trouver une raison à ma transition, parce qu'on te demande souvent « pourquoi ?». Mais j'ai pas de réponse. Moi, j'ai juste suivi ce qui me rendait heureux et j'ai continué. Je veux recharger le mot trans de tout ça. Parce que oui, la joie fait aussi partie des parcours de transition et les joies trans, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez.
Et oui, il faut quand même terminer sur cette note après cette chronique de combat. Merci, Jeanne.
De rien.
Et maintenant, c'est au tour de Séverine Crène, qui, sur un sujet peut-être un peu plus léger, là, il est question de grandes marées, mais de grandes marées de contes à Brest, c'est ça ?
C'est ça. Le festival de contes Grande Marée va avoir lieu, c'est le 26e, il va avoir lieu du 14 au 29 novembre à Brest et dans sa région. Il y en a pour tous les publics, certains spectacles étant quand même réservés aux adolescents et aux adultes, et il y en a également pour tous les goûts. Lors des spectacles de contes, vous naviguerez de trésors perdus en oiseaux multicolores, d'épopées mythologiques en épopées du quotidien.
Il n'y a pas un thème général alors ? Dans les grandes marées?
Non.
C'est les contes.
C'est les contes. On peut dénombrer quand même 14 conteurs, 2 musiciens, 42 spectacles de contes et une scène ouverte. C'est quand même énorme en 15 jours.
Ah oui, c'est...
Cette scène ouverte dont je vais vous parler est organisée au Cafkérine le 20 novembre à 18h à Brest. Elle est organisée par l'association 1029 Contes, qui est une association de conteurs amateurs et il faut s'inscrire pour compter à la scène ouverte. Pour tous les spectacles, les réservations sont conseillées parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et parfois on se retrouve le nez à la porte. Celle-ci se faisant soit sur le site de Grande Marée, www.grande-6marée.net sans accent, soit directement aux structures par téléphone ou par mail. Donc vous retirez le livret dans les médiathèques et les salles de spectacle partenaires du festival ou vous pouvez le trouver sur le site du festival.
C'est payant, gratuit ?
Ça dépend des spectacles, ouais. En fait. Voilà. La soirée d'ouverture est payante, elle est à 12 euros, par exemple. Voilà. Qui a lieu le...
Là, c'est le 14,
le
j'imagine.
Le 19 au Macorlan. Non,
ah oui.
Non, c'est pas le...
Ça commence le 14, mais la soirée d'ouverture, c'est le 19. Bon,
c'est
okay.
Ça, voilà, c'est toujours comme ça. Alors moi, je vais vous parler de deux conteurs. Parce qu'on ne peut pas parler de tous les conteurs, malheureusement.
Mais non, là, oui.
Parce que 14, là, il y a quand même ouais, 14. Ouais. Donc, Alors, je vais vous parler de Pepito Matteo, qui est un conteur très connu dans le monde du conte. Tout le monde ne connaît
mais
pas, mais...
Nous sommes assez nuls. Hein.
Les aficionados du conte le connaissent. Et donc, il a un goût du langage très, très précis. Il joue avec les mots. Et son récit, La leçon de français, qu'il va jouer donc, pendant le festival, qui vient nous présenter le jeudi 28 novembre, donc je le conseille vraiment. Il le joue au centre Henri Kefelec à Gouesnou à 19h30. Donc c'est un spectacle connu qui tourne dans toute la France. Moi je l'ai vu à Vassivière il y a quelques années, j'ai eu la chance de le voir dans le grand festival de Vassivière.
Ouais, c'est vrai, on voyage dans toute la France pour écouter des contes.
Eh bah, oui, j'adore les contes. Donc on va en écouter un extrait.
Eh bien on va faire ça tout de suite, en effet.
Bonjour et bienvenue dans cette salle de classe imaginaire pour cette rencontre-spectacle autour de la langue française. J'ai pensé, pour ce cours de rattrapage du soir, vous parler d'un sujet important, puisqu'il s'agit des malentendus de la langue. Entendons-nous bien, hein, je ne suis pas prof, je ne vais pas vous faire la leçon. D'ailleurs, j'ai envie de vous raconter une histoire pour commencer. C'est un homme qui arrive dans un pays hostile, et les gens lui disent « Ici, personne ne te connaît, on ne sait pas qui tu es ». Et le gars, il répond, c'est l'inverse qui sera embêtant, que les autres me connaissent et que je ne sache pas qui je suis. En fait, le spectacle parle aussi de nos trajets, des migrants, des difficultés à s'entendre et quelquefois même à se comprendre soi-même. D'ailleurs, chez nous, on dit qu'on parle comme on a le nez fait en Champagne. On va dire qu'il pleut à bouteille. Alors que ça pissouille en Franche-Comté, ça drage dans le Schnorr et en Belgique, il tombe des crapauds et des chats en Alsace, des apprentis cordonniers au Danemark, et même des curés à cheval sur des nonnes en Bourgogne. Alors c'est pas la peine de vouloir faire d'omelette avec des œufs de truite, comme disait Catalan.
Alors en effet, c'est quelqu'un qui aime les mots, apparemment, Pepito Matteo. Séverine, ouais.
Ouais.
Et donc, lui, c'est quelle date ?
C'est le 28 novembre, donc à Gouesnou, au centre Henri Kefelec. Donc je vous recommande vraiment, et donc réservez. Donc maintenant, je vais vous parler de David Tormena.
Ok.
Alors lui aussi, c'est un monument. On dit de David Tormena qu'il a les pieds plantés dans la terre et la tête perdue dans les étoiles. C'est une belle expression, j'aime beaucoup. Donc c'est un conteur qui a plusieurs cordes à son arc. Au festival Grande Marée, il présente 3 spectacles sur le festival où il y mêle récits de vie et contes traditionnels. Donc ses 2 premiers spectacles, c'est La clé de la forêt et C'est beau la mer. Donc c'est des spectacles pour les ados et les adultes à partir de 10 et 12 ans. Et le 3e spectacle, c'est Sac de contes et nœuds d'histoire, qui est un spectacle pour à partir de 5 ans. Alors, ce serait difficile de vous résumer chaque spectacle qu'il présente. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas pu voir ces spectacles-là, mais j'ai vu d'autres spectacles dans un autre festival cet été à Baden, dans le Morbihan. Et je peux que vous recommander David, parce qu'il est plein de dynamisme, il nous transporte dans son univers très rapidement. C'est un conteur du sud de la France. Et donc, il a une parole simple, directe, drôle, tendre. On sent qu'il prend un vif plaisir à raconter ces histoires d'hommes et de femmes qui peuplent notre mémoire collective avec des personnages hauts en couleur qui sentent la vie. Et moi, je l'ai vu jouer de l'orgue de Barbarie à Baden. Donc, il a vraiment plein de cordes à son arc, voilà. Donc je vous conseille de courir vite faire vos réservations avant que ce soit plein. Allez ouvrir grand vos oreilles et vous régaler d'histoires et de récits et de contes. Donc le festival ouvre ses portes du 14 novembre et ça va jusqu'au 29 novembre.
Et donc c'est à Brest et pas seulement.
Et pas seulement, ça va à Plougonvelin, à Lesnevin, à Ploumoguer, à Guipava, à Plouguerneau, Relecq-Kirion, Plougastel, Daoulas, Plouarzel, Plabennec, Lampol-Plouarzel, Plouzané, Gouesnou et Brest, Guilherme.
C'est pas encore totalement finistérien, mais c'est bien nord-finistérien. Et c'est le festival Grande Marée, donc 26e édition. Merci Séverine. Et puis alors, comme tu ne te contentes pas du contre, en fait, hein, tu aimes aussi le cinéma, tu t'intéresses au cinéma, et en particulier à un autre festival, toujours à Brest, qui commence aujourd'hui, c'est le festival du film court.
Européen. Donc, il se déroule. Donc, il commence aujourd'hui. Il va jusqu'au 17 novembre. Donc, il court sur 6 jours. Donc, il est de retour cette année au Quartz. Donc, c'est la 39e édition. Il y a 154 films programmés. Il y en aura 30 sélectionnés. Il y a 3 programmes de compétition, un programme européen, français et breton, ainsi que des programmations off, avec entre autres la soirée d'ouverture, celle de clôture, des rencontres, etc. Donc, les programmes off complète des compétitions en proposant un panorama plus large et plus exhaustif que des tendances du moment. Ne se limitant pas aux premiers films et films d'école, il propose d'explorer la variété de la création cinématographique européenne, du cinéma de genre à l'animation, en passant par des thèmes récurrents repérés par les films de l'année. Ils permettent aussi de suivre avec attention, à travers toute l'Europe, le parcours des cinéastes révélés et passés à Brest. Comme tous les ans, la programmation est adaptée pour tous les publics à partir de 3 ans, puisque 8 programmes sont prévus pour les jeunes publics. Dans le jury professionnel, on remarquera la présence cette année de Megan Northam, qui a joué avec Cédric Clapiche dans Salade grecque.
D'accord. Et donc ça, c'est le Festival du film court de Brest, film européen. Donc c'est vrai que pratiquement tous les pays d'Europe sont représentés. C'est la 39e édition. Donc ça revient au Quartz après 3 ans dehors les murs, parce qu'il y avait des travaux au Quartz, tout simplement. On a 2 envoyés spéciaux à ce festival, à Transistor. C'est
Seb,
Séverine, voilà,
et Seb.
Et Seba. Et donc vous viendrez la semaine prochaine, après le festival, nous parler de ce que vous avez vu.
Oui, c'est ça.
Vous allez voir les mêmes programmes ou vous allez vous répartir? Non, vous savez pas encore.
On ne sait pas trop encore. Moi, je pense que j'irai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ne sais pas, parce que je pense que je vais aller aussi au festival.
Grande Marée, bah oui.
Grande Marée, je suis bien obligée de me couper en deux cette année. Ils sont en même temps, alors.
Terrible.
C'est un peu stressant, un peu frustrant plutôt. Donc voilà.
Mais t'étais jamais allée à celui du film court?
Non, c'est la radio qui m'a.
Qui t'a forcé.
Qui m'a mandatée. Donc, je n'étais jamais allée, j'avoue.
Et bon, ça t'intéresse?
Bah oui, bien sûr. Moi, j'aime bien le cinéma aussi. Donc,
Très bien. Bah, merci beaucoup, Séverine.
De rien.
Et puis, sans transition, on va passer du cinéma au théâtre. Marine Chanourdi, qui est aussi sur ce plateau. Vous savez que Marine, son truc, c'est vraiment le théâtre et pas n'importe quel théâtre. Là, c'est Shakespeare, carrément.
Là, c'est carrément Shakespeare. Et attention, on va parler de Macbeth. Mardi dernier avait lieu au Théâtre de Cornouailles la première de la pièce Macbeth du grand Shakespeare, adaptée et mise en scène cette fois par David Gauchard, d'après une traduction de M. André Markovitch.
Ah oui.
Après plus de 2 ans de travail et de recherche sur la pièce, le metteur en scène, David Gauchard et son équipe étaient en résidence création au Théâtre de Cornouailles dès la fin du mois d'octobre, en vue de donner vie à la célèbre pièce écossaise. Vous savez que peut-être que Macbeth est une pièce qui est maudite.
Ah bon ?
Donc il faut éviter de prononcer son nom dans un théâtre. Ici, nous sommes dans un studio de radio, tout va bien. J'ai eu la chance de me joindre à l'équipe du spectacle le temps d'une répétition le 31 octobre dernier. Je me suis glissée comme une petite souris. Voici un extrait du filage du début de la pièce. C'est le début de la fameuse scène des sorcières.
Dans l'éclair, la pluie, le noir, après le tohu-bohu, le combat gagné, perdu. Où nous voir ? Sur les bruyères, où Macbeth revient de guerre. Entendez ? Le tambour, Macbeth aux alentours. L'impur et pur, le pur impur, soyons la brume et l'air d'ordure. Toutes les trois, main dans la main, courrier des mers et des chemins, tracez vos cercles 3 par 3. 3 pour toi et 3 pour moi. 3 de plus et 3 fois 3. Paix. Le charme est déclenché.
Un jour impur et pur comme aucun jour.
Silence, Macbeth. Là, que sont ces formes si fanées, si farouches dans leur mise, qui n'ont pas l'air de tenir de la terre et sont sur terre? Avez-vous de la vie? Êtes-vous quelque chose qu'un mortel peut questionner? Vous semblez me comprendre.
Parlez si vous pouvez. Vous êtes quoi?
Et nous sommes au Théâtre de Cornouailles, c'est ça, hein?
Et nous sommes là au Théâtre de Cornouailles pendant une répétition, une des répétitions qui ont eu lieu fin octobre, début novembre, voilà.
Marine avait tous ses micros, elle est en train de se débattre avec des heures de son et on entendra la version longue quand ça sera fini. Hein,
oui, 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 je prévois de préparer un ribbon, voilà, qui comportera a priori aussi une interview de David Gauchard, des extraits de la conférence qu'André Markovitch a donnée sur son travail de traducteur. Il a parlé un petit peu de son travail sur Macbeth le 14 octobre dernier, au Théâtre de Cornouailles aussi. Et donc des extraits de la répétition à laquelle j'ai pu assister.
Bon. Donc là, c'était la scène des sorcières.
Là, c'était la scène des sorcières. Alors Macbeth, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est l'histoire de ce général, donc Macbeth, qui, à la suite de la prophétie de 3 sorcières, lui ayant annoncé qu'il serait roi, commet sous l'impulsion redoublée de son épouse, Lady Macbeth, le crime de régicide contre Duncan, le roi d'Écosse. De ces crimes qui en amèneront d'autres, les deux époux ne se relèveront pas. Chacun sombrant dans une folie les menant à la mort, les deux, hantés par le sang qu'ils ont fait couler, ne seront finalement jamais consolés par le pouvoir qu'ils auront violemment usurpé. Macbeth tue le sommeil. Parmi les grandes thématiques qu'embrasse la pièce, on rencontre la peur, le poison de la grande violence et de la trahison, mais aussi, et cela m'a frappé dans cette mise en scène, la vanité de nos vies, de toute vie, mais peut-être plus encore de celles faites d'ambitions aveugles, de passions incendiaires, d'actes inconsidérés, tragiques, et pour tout dire, de gesticulations chaotiques. Dehors, brève bougie, la vie, une ombre qui marche, un pauvre acteur qui se pavane et se démène une heure sur l'estrade et puis qu'on n'entend plus. Un conte dit par un idiot, plein de bruit, de fureur et qui signifie rien. Ce sont les mots de Macbeth à quelques pages de la fin de la pièce. Macbeth tue le sommeil. David Gauchard a fait le choix d'une mise en scène sobre et élégante, centrée sur le couple Macbeth, couple fusionnel, couple sans enfant et dévoré par l'ambition. On entre dans la pièce par le rythme du tambour, qui appelle celui de la langue, les mots de Shakespeare, alors de la pièce elle-même, mais aussi de 3 des sonnets de l'auteur. David Gauchard a souhaité introduire 3 sonnets, les mêler à la langue de Macbeth.
Est-ce qu'il ne faisait pas que du théâtre, Shakespeare, hein?
Exact. Je vous invite à découvrir ces sonnets traduits justement par André Markovitch et Françoise Morvan. Ces mots-là donc, sont mis en beauté par justement le traducteur André Markovitch, sans doute le seul traducteur français à respecter la métrique du vers shakespearien. J'ouvre une parenthèse un tout petit peu technique, on parle du pentamètre iambique. Il se trouve que c'est le vers le plus fréquemment utilisé en anglais. Il est composé de 5 iambes, des pieds. La métrique en anglaise repose sur l'accentuation des syllabes et non sur leur longueur. Un iambe comprend en anglais une syllabe accentuée suivie d'une suivie d'une syllabe accentuée. Souvent, pour comprendre, on se réfère au battement du cœur. Papam, papam, papam.
D'accord. Mais ça, c'est en anglais.
Et ça, c'est en anglais. Voilà. Et donc, André Markovitch cherche à retrouver le souffle, la rythmique du vers shakespearien. Il crée ainsi un vers énergique à la fois rythmiquement régulier et poétiquement dense, qui s'appuie sur des effets, attention, souvenirs de collège, d'allitération et d'assonance. Donc la rythmique des voyelles, des consonnes qui se suivent et se répètent. Il entraîne ainsi les auditeurs dans cette rythmique, ce beat, cette musicalité des vers. C'est aussi une possibilité, le temps d'une représentation, d'être ensemble. Le public qui écoute, attentif, et les comédiens qui jouent ensemble au même rythme. La langue donc, sa poésie. On en suit jusqu'au bout le fil tendu porté par le phrasé et le souffle des acteurs que je cite, Loïc Renaud, plus connu sous son nom de scène, Arme, qui est rappeur par ailleurs, Marina Keltchevski, Vincent Mourlon, Vanessa Lioté, Sophie Richelieu. On est aussi porté à l'intérieur de cette partition par le son qui a une place à part. On l'avait évoqué ça lors d'une précédente marotte.
Là, on pourrait presque regarder tout ça les yeux fermés, c'est ça ?
Exact, c'est vraiment ce que je me suis dit. Ça pourrait être uniquement audio presque.
Là, l'extrait était très radiophonique.
Exact,
en tout cas.
Il y a plein de moments comme ça. Il y a un travail très particulier sur le son, les textures sonores, la musique enregistrée et aussi jouée en direct. Au plateau, on saluera ici le travail du créateur sonore, Michael Plugnon. Là, vraiment, le son a une place tout à fait à part et aussi importante que le jeu des acteurs. Autre fait remarquable, dans cette pièce où la nuit n'en finit pas, la lumière partout où elle apparaît est une splendeur. Faites-vous votre idée, allez voir cette pièce, allez au spectacle. Il se joue du 13 au 15 novembre au Théâtre de Morlaix et part ensuite en tournée. Toutes les dates seront précisées sur le site de Transistor et sur le site de la compagnie L'Unijambiste.
Et il y aura le Ribine pour revivre tout ça. Merci beaucoup Marine, merci à toutes les trois en fait. Et à bientôt sur Transistor.